Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h24, bonjour Emmanuel Cosse.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes bien entendu ministre du Logement et de l'Habitat Durable. Zéro SDF en France, on en débat depuis ce matin avec nos auditeurs. Est-ce que c'est possible dans notre pays ?
Je pense que ça peut être possible, mais ce que j'écoutais tout à l'heure, un de vos sujets, je pense que c'est difficile d'en faire un slogan et de dire, c'est ça la difficulté, d'en faire un slogan politique et de dire comme ça le problème est résolu. Pourquoi je dis cela ? C'est pas tant la question place d'hébergement, mais c'est que sortir les gens de la précarité et des gens qui sont à la rue, c'est ça veut dire résoudre des tas de problèmes. La question de la précarité, de la pauvreté, la question des troubles psychiatriques, la question de personnes qui, par exemple, ont été incarcérées, se sont retrouvées sans rien à la sortie de leur incarcération. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parmi les personnes hébergées, et moi j'invite les gens à aller discuter avec les associations qui s'en occupent, vous allez trouver autant d'histoires que de visages de la précarité. Et donc c'est un travail de longue haleine. Ce sont des personnes qui parfois sont dans des histoires difficiles depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué. Mais
pardonnez-moi, je vous interromps. Je suis frappé, je dirais, par l'aspect mesuré de votre analyse. Et j'insiste parce que je trouve, et c'était un petit peu la tendance des appels que nous avons reçus ce matin, qu'il y a un aspect, je ne sais pas s'il faut parler de démagogie, mais on est en période électorale. Jean-Luc Mélenchon nous dit par exemple, il nous faut créer un monde où zéro personne dorme dans la rue. Nous sommes tous d'accord
tous
avec
d'accord,
cela, Emmanuel Cosse.
Voilà. Comme moi, je veux lutter contre la pauvreté.
Oui.
Voilà.
Voilà. Après, c'est une fois qu'on a balancé le slogan, il y a des gens qui restent dans la difficulté. Et du coup, on crée aussi de l'incompréhension.
Mais surtout, moi, je vous dis les choses sincèrement, parce que c'est comme ça que je fais les choses en tant que ministre du Logement, c'est que je ne minimise aucune difficulté et aucun obstacle. Et en même temps, je veux faire de la pédagogie. Parce que vous l'avez dit, on s'intéresse beaucoup aux SDF parce que nous sommes en hiver. Il y a autant d'SDF qui peuvent décéder la période hivernale qu'en été. Et en effet, cet été, l'été prochain, je ne serai certainement plus ministre du Logement, mais on continuera... C'est une hypothèse, mais j'espère qu'on continuera à parler de la très grande précarité en été. Moi, au mois d'août dernier, le 3 août, j'ai fait des maraudes avec les équipes chargées des personnes en grande précarité pour bien redire les conseils, par exemple, quand il faut s'hydrater. Est-ce que vous croyez que l'indignation était collective et française ? Là, il fait très froid. Enfin, il fait très froid comme un hiver normal. Mais d'un seul coup, tout le monde se rappelle que l'hiver, il peut faire froid. Mais dans 15 jours, j'espère qu'il fera moins froid. Moi, je vais continuer à ouvrir des places, à regarder dans quelle région j'ai des difficultés. Donc, simplement, ce que je veux dire, c'est que l'indignation des Français, là-dessus, elle est tout à fait logique. Et heureusement qu'elle existe. Mais en tant que politique, moi, jamais je ne pourrais tenir un discours qui dit « j'ai la recette miracle et dans 2 ans, je vais vous résoudre tout ça ».
Alors, c'est d'ailleurs ce que nous disait hier Florent Guéguen, qui est le directeur général de la FNAR, c'est la Fédération des acteurs de la solidarité pour aller vite, et il appelait à la création de places d'hébergement pérennes et de logements qu'il qualifie de très sociaux. Comprenez ce que ça veut dire, des logements
très
sociaux ? Et j'ajoute ma question, pardonnez-moi, c'est qu'est-ce que peut faire le ministre du Logement concrètement pour venir en aide aux plus vulnérables dans les circonstances que nous traversons ?
Alors, la première chose, c'est déjà augmenter les places d'hébergement. C'est ce qui a été fait en 4 ans. Nous sommes aujourd'hui à plus de 120 000 places d'hébergement pérennes, c'est-à-dire ouvertes toute l'année. Il y en avait 82 000 en 2012, premièrement. Plus en période hivernale, c'est-à-dire de novembre à avril, on ouvre des volants supplémentaires de places et c'est 12 000 places qui ont été ouvertes. Et aujourd'hui, on est à 131 500 places d'hébergement ouvertes. Plus, et c'est là où j'en viens, quand il fait très froid de manière durable, amener des services d'urgence plus forts, notamment des gymnases. Quelle est ma difficulté aujourd'hui ?
Il manque 20 000 places, en gros.
Je pense que je ne serai pas aussi catégorique. Je pense qu'il y a à peu près entre 10 et 20 000 personnes qui, occasionnellement, ne sont pas hébergées. Mais,
parce qu'elles passent entre les mailles du filet, comment vous
expliquez
cette
situation ? Non, il y a de tout.
Certains ne veulent pas.
Je peux vous donner un exemple. J'ai fait une maraude sociale il y a 10 jours. Il y a une personne qui est connue par le SAMU social de Paris, que le SAMU social va voir quasiment tous les jours. Il accepte une nuit de temps en temps. Il préfère dormir à son endroit parce qu'il a son réseau. Il faut beaucoup de temps pour convaincre les personnes de sortir de leur isolement de la rue pour retrouver le contact avec la société. Il y a aussi des personnes qui vivent dans des cabanes. Là, en période de grand froid, je vous dis les choses telles qu'elles sont. On est en train de faire des maraudes dans les forêts.
Oui.
On va chercher les gens. Les gens ne vont pas venir à nous. Et moi, je ne vais pas attendre que les gens viennent à nous pour les aider. Donc, on va à leur direction. Mais ce que je veux dire sur le public qui est hébergé, on a 3 types de publics. On a des publics, vous l'avez dit dans vos sujets ce matin, qui ont des problèmes de situation administrative, qui n'ont pas de papier. On a un public de la très grande exclusion, des gens qui sont avec des addictions lourdes, des troubles psychiatriques et qui ont besoin d'un parcours de soins. Et nous avons des familles ou des hommes et des femmes qui ont des faibles revenus, mais qui n'ont pas de problèmes sociaux. J'ai rencontré la semaine dernière une famille dont le mari travaille à temps plein, il gagne 1 800 euros, 1 700 euros par mois. C'est pas un salaire énorme, mais c'est un salaire correct. Il n'arrive pas à se loger avec ses 3 enfants. Et donc, là, la question, c'est bien une question de construction de logements sociaux, c'est bien une question d'accès aux logements abordables. Et c'est pour ça, Florent Gane a tout à fait raison de le dire, que la question de l'hébergement, elle se résolvera par une politique du logement abordable et donc avec des loyers très bas.
Justement, Emmanuel Coste, nous sommes en ligne avec Jean-Baptiste Hérault, hein, qui est le porte-parole de l'association Droit au Logement. Bonjour Jean-Baptiste Hérault.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous aviez une question à poser très directement à la ministre ce matin.
Bah, écoutez, d'abord, pour nous, une fois de plus... Le gouvernement a l'air surpris par la vague de froid, même s'il a mis en place des solutions. On voit aussi que le nombre de places d'hébergement a considérablement augmenté dans notre pays, donc très bien. Mais par ailleurs, on n'a pas travaillé sur le fond. C'est-à-dire que les logements, comme vous le disiez très justement, les logements sont très chers aujourd'hui dans notre pays. Moi, je constate par exemple qu'il y a des logements aujourd'hui qui sont plus chers à Saint-Ouen, dans la banlieue nord de Paris, qui sont plus chers qu'à Paris. C'est-à-dire qu'on est dans un mécanisme aujourd'hui où on a une loi qui ne s'est pas appliquée là où il aurait fallu l'appliquer. On a évidemment de plus en plus de familles qui sont mises dehors. Comme vous le disiez très justement, une famille avec des enfants et qui a un salaire et qui n'arrive pas à se loger. Bon, alors, est-ce que la solution pour nous, elle serait pas de baisser les loyers, d'agir vraiment sur la question de fond et de baisser les loyers, d'augmenter les appels au lieu de les réduire comme malheureusement vous l'avez fait cette année pour un certain nombre de ménages en leur imposant une espèce d'ISF du pauvre, et puis réquisitionner les locaux et les biens vacants appartenant à des riches propriétaires ou aussi au pouvoir public. Moi, on a été occupé la semaine dernière, il y a 15 jours, on a été occupé l'Hôtel Dieu. Bon, il y a encore beaucoup de place là-bas pour héberger les personnes qui sont sans logis.
C'est l'éternel... C'est l'éternelle question, je me permets de vous interrompre, Jean-Baptiste Hérault, de la réquisition. Alors, eh ben Emmanuel Coste vous répond en direct sur RTL.
Mais la première chose, et je connais bien les demandes du DAL, avec qui d'ailleurs on travaille très souvent, c'est que derrière la réquisition, il y a 2 questions. Réquisition des bâtiments publics, nous le faisons très souvent. Nous le faisons pour de l'hébergement, pour de l'accueil de migrants. En cas de problème, accident de circulation, il faut mettre des gens à l'abri. Et aujourd'hui, il y a eu un travail considérable qui a été fait ces dernières années pour que les bâtiments publics qui appartiennent aux ministères, aux administrations,
soient adaptables
et surtout soient utilisés. Pas seulement. La cession du foncier public, qui est une loi qui a été adoptée en 2013, nous a permis de récupérer énormément de bâtis publics pour faire du logement, pour faire des centres d'hébergement. Et y compris, je peux vous dire, depuis le dernier automne, en Ile-de-France, on a réutilisé beaucoup d'hôpitaux qui étaient vides, par exemple. L'Hôtel Dieu, là, il est certain que l'action du DAL nous a permis d'accélérer les choses considérablement, puisque nous avions un projet avec la PHP et que l'action du DAL l'a accéléré. Réquisition des bâtiments privés vacants. Réquisition des propriétés privées. Moi, je veux dire les choses très honnêtement. Le droit n'est pas de notre côté. La Constitution et le droit ne sont pas de notre côté. C'est-à-dire que c'est très complexe pour le mettre en œuvre. C'est des années. Et je peux vous dire que l'énergie que j'aurais à déployer sur la réquisition de bâtiments privés fait que je préfère la mettre ailleurs. Mais ça n'empêche...
Ça veut dire que vous pensez qu'il faut trouver d'autres biais ?
Les autres biais, c'est un, taxer les logements vacants. Il y a aujourd'hui une taxe sur les logements vacants qui permet de dire les choses et appeler l'ensemble des propriétaires personnellement. C'est ce que font les collectivités pour leur dire « Votre bien est vacant depuis 3 ans. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut vous aider à le remettre en location ? Savez-vous qu'il y a une incitation fiscale importante si vous le remettez en location à loyer modéré ? C'est comme ça qu'on va avancer. Et enfin, je veux le dire ici, puisque vous parlez d'un contexte politique, nous sommes en campagne électorale. Une partie des candidats veulent supprimer la loi SRU qui impose une construction de logements sociaux dans l'ensemble des communes françaises, qui a pourtant montré son efficacité. Et moi, je le dis ici, toutes les personnes qui soutiennent cette suppression de la loi, c'est des gens qui vont agir contre la lutte contre la précarité et pour l'accès au logement.
La réponse d'Emmanuel Coste à Jean-Baptiste Hérault. Merci, Madame la Ministre, d'être venue nous voir ce matin. Merci à Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association Droit au Logement. Le débat continue sur l'antenne d'RTL. Vous le savez, vous pourrez réagir notamment en nous appelant dans RTL Midi. Vous continuez de réagir au 3210. Bonne journée à tous.